Voilà, très bien. Tiens, regardez ça, allez. Attention au sol là.
Oui, chef.
Un peu de sel. Un peu de citron, là, ça là. Un peu de champignon, un peu de citron. Un petit peu. Voilà. Voilà, très bien. Voilà.
Salon 2, 46.
Voilà. Allez. Chaud. Roulez. Allez, sauce turbo est parti.
Oui,
sauce turbo.
Oui.
Allez.
L'esprit qu'ont les cuisiniers actuellement depuis une quinzaine d'années nous a été donné par les actes d'amour de cuisinières qui, elles, étaient très souvent le bras et la pensée. Elles avaient le sens des choses et la culture était détenue très souvent par les maîtresses de maison. Je crois que les cuisiniers, eh bien, ont pris un petit peu à leur compte et sont moins des ouvriers spécialisés et beaucoup plus des gens de foi, de passion.
Les pieds paquets seront prêts dans 10 minutes. Peut-être 12. Hein? 14. Non. 10 minutes.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le goût du monde, l'émission où l'on parle de ce qui se mitonne, de cuisine et se dit autour de la marmite, du lien né autour d'un plat. On prendra le goût pour vocabulaire avec une conviction depuis toujours. La cuisine, c'est bien plus que des recettes et notre invité du jour en sait quelque chose. Des années qu'il bat la campagne, les uns qu'il compte et raconte ses gueuletons au cul du camion, les bectances de fortune, les arrières-cuisines, les plats d'amitié, la cuisine, la raffinée. Bonjour Jackie Durand.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, chroniqueur culinaire, chroniqueur de vie, j'ai presque envie de dire, pour le journal Libération, et sur France Culture également, à la radio, dans vos livres aussi, vous donnez à sentir, à entendre, à goûter le hareng de nos mères, cuisiner un sentiment, et aujourd'hui, le carnet de recettes qui est publié chez Stock. Je vais vous demander de m'aider un petit peu à raconter de quoi parle le cahier de recettes.
Le cahier de recettes parle d'un père et de son fils qui... J'allais dire vivent chacun leur solitude ensemble, croisent leur solitude, puisque le père, en grande partie dans le roman, élève son fils seul, il est cuisinier, il fait de la cuisine, je dirais, de ménage, une cuisine simple, dans un petit restaurant qui s'appelle le Relais Fleury, qui est à la sortie d'une gare, dans l'est de la France, et son fils l'observe comme un enfant peut observer les gestes des adultes, il prend goût aux gestes de cette cuisine. Et il voudrait bien devenir cuisinier, mais son père, qui lui estime que son fils doit faire des études, qui estime que c'est un métier très dur, un métier effectivement où on compte ni son temps ni sa fatigue, lui dit mais fais autre chose, fais des études, deviens ingénieur, deviens professeur.
Deviens autre chose.
Moi j'ai été obligé de travailler de mes mains, toi tu as la chance de pouvoir apprendre, mais j'apprends avec toi. Tu soupires. Oui, mais pas dans les livres. Tu sais, quand j'ai commencé dans la boulange, j'étais tellement petiot que je basculais presque dans le pétrin. Je me cassais le dos avec les sacs de farine et je me brûlais avec les cendres chaudes. Alors toi, va à l'école le plus longtemps possible pour ne pas te retrouver à la chaîne, à l'usine ou porter des sacs de ciment sur les chantiers. Apprends un bon métier. Mais c'est un bon métier, cuisinier. Non, gamin, tu rêves parce que tu es dans mes pattes et celles de Lulu. Mais va voir ailleurs. Ça gueule, ça se fout des torgnoles, ça picole au bar pendant que les apprentis suent sang et eau. Et puis c'est pas une vie. La cuisine, t'es debout de 7h du matin à minuit. Même si ça marche, t'as toujours l'angoisse de la salle vide, du service qui part en couille, du rognon ou de la blanquette qui ne sont pas comme d'habitude. Mais j'aime la cuisine. N'en fais pas ta vie, car elle te bouffera. Apprends un bon métier. C'est quoi pour toi un bon métier? Il marche et compte sur ses doigts. Comptable, dessinateur industriel, ingénieur, médecin, cheminot, professeur, fonctionnaire, oui, ça c'est bien. Tu as la garantie de l'emploi et tu ne prends pas de nion comme dans le privé.
Alors ces mots, ce sont ceux de votre livre, Le cahier de recettes, Jackie Durand. On a évidemment deux protagonistes qui sont Henri, donc le père cuisinier, Julien, son fils. Il y a d'autres protagonistes puisqu'il y a une mère qui est absente. Il y a un cahier de recettes qui est presque un personnage en soi. Au-delà de la relation d'un père et de son fils, qu'on peut retrouver dans d'autres milieux que celui de la cuisine. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans ce livre, Jackie Durand ?
J'ai voulu raconter ce que je disais déjà, c'est-à-dire la solitude de ces deux hommes, de ce père et de ce fils, qui apprennent à vivre ensemble, tous les deux, avec personne autour d'eux, même si effectivement gravitent d'autres personnages. Notamment, c'est quelque chose que j'ai essayé de raconter à travers les dimanches qui passent ensemble. Et j'ai essayé aussi, évidemment, de poser la question de la transmission. À la fois la transmission dans le transmetteur, à savoir le père, qui là n'est pas le transmetteur, parce que lui, il veut pas que son fils devienne cuisinier. Et j'allais dire le récepteur, c'est-à-dire le fils qui, lui... épie tous les gestes de son père. Et la transmission, en fait, J'ai souvent pensé, notamment durant l'enfance et l'adolescence, c'est quelque chose qui fonctionne d'abord à travers les yeux, le regard et les oreilles de celui qui veut apprendre plutôt que celui qui veut enseigner.
Dans l'observation, il y a une vraie dichotomie d'ailleurs dans votre livre. Il y a la transmission orale et la transmission écrite, avec un vrai jeu de société aussi dans ce rapport de transmission orale et transmission écrite. Donc il y a l'une où les mots sont posés et l'autre où la transmission se fait avec les gestes.
Tu ne m'as jamais appris une recette, ou plutôt jamais au sens où on l'enseigne à l'école. Ni fiche, ni quantité, ni leçon. Il a fallu que je les maraude à l'œil et à l'oreille. Quand tu me disais « mets du sel », je te demandais « du sel comment, combien ?» Tu levais les yeux au ciel, mes questions t'agaçaient. Tu prenais brusquement ma main, y déposais un peu de gros sel. Tu en mets comme ça, au creux de la main, pour évaluer la quantité. C'est pas compliqué quand même. Avec le creux de la main, tu peux tout mesurer. Quand tu me parlais d'une cuillère à soupe de farine, il fallait que je devine s'il s'agissait d'une cuillère à soupe rase ou bombée. Je n'ai jamais pu non plus te soutirer un temps de cuisson. Tu me disais... Tu as un couteau et des yeux, ça suffit amplement pour savoir si c'est cuit ou pas.
Et n'est-ce pas ça la transmission en cuisine, le ressenti? Comment est-ce qu'on explique et qu'on raconte ça, on fait ressentir ça?
Je crois que la transmission, c'est aussi rassurer l'autre en lui disant « fais confiance à ton intuition ». Apprends toi-même à gérer tes interrogations et à te fier à toi-même. Évidemment, on peut toujours, derrière une recette, mettre des grammes. Effectivement, c'est vraiment souvent une question de proportion extrêmement précise. Mais je crois que la transmission, c'est aussi apprendre à quelqu'un à avoir confiance en soi. Et avoir confiance en soi, ça va être dans le creux de la main. Ça va pas être en prenant une balance électronique et en mesurant 10 grammes de sel. Ça va être de se dire, bah, effectivement... Là, ce que j'ai dans le creux de la main, ça peut suffire à saler le plat, ou au contraire, je vais en rajouter un tout petit peu. Et ça, je l'ai appliqué à la cuisine dans ce livre, mais j'aurais pu raconter ça dans d'autres métiers, où effectivement, on enseigne, on va dire, l'art exact des choses, mais en même temps, on apprend aux gens à écouter leur propre résonance par rapport à ce qu'ils font et à ce qu'ils voient.
Ce qui est intéressant, c'est que ce soit justement en cuisine, parce que tel que je l'ai lu, moi je vous le confie, quand j'ai lu le cahier de recettes, j'ai surtout vu une profession et un savoir-faire mis en lumière, un savoir. Et je trouve que c'est ça peut-être qui pêche aujourd'hui, en fait. On a envie de redonner du sens à la cuisine. Il y a aussi l'envie peut-être de sortir de l'ombre ces ouvriers, ces artisans qui travaillent dans les cuisines et de redonner du sens à leur action.
Mais je crois que, évidemment, ce livre est situé dans le milieu de la cuisine, mais comme vous le dites, il faut redonner du sens, je pense, à toutes les activités qui nécessitent ce que moi j'appelle l'intelligence de la main. Et ce que la tête dit avec la main, la relation de la tête avec la main. Et je pense profondément que depuis très longtemps, bien avant la robotisation, depuis le taylorisme, les activités humaines ont été souvent niés au profit d'une automatisation des tâches et qu'on a gommé comme ça toute cette phase de sensibilité des métiers, celui de la cuisine, mais je pourrais vous parler d'autres métiers, où effectivement l'homme, de par son ressenti, va le prendre en compte et s'appuyer dessus pour fabriquer un objet. Mais il peut aussi fabriquer un meuble, il peut travailler le métal. Et je crois que une grande partie de la question que pose aujourd'hui un certain nombre de crises que connaît notre société, notamment celle des Gilets jaunes, c'est de se perdre de sens. Si vous regardez aujourd'hui les petites annonces pour l'emploi, évidemment, vous verrez commis de cuisine, cuisinier, mais vous verrez aussi pour d'autres activités, on cherche des opérateurs. On ne cherche plus un ouvrier ou un ouvrier hautement qualifié, on cherche des opérateurs. Et c'est exactement ce qui se passe dans toute une branche de la restauration où effectivement, on nie le savoir, on nie la sensibilité. Quand vous voyez, par exemple, des chaînes, des enseignes qui vous proposent comme ça, quelquefois on va dire des plats où on peut prendre l'exemple d'une salade avec des bons produits. On vous dit que ce sont du local, du bio et tout ça. Mais en même temps, quand vous mangez tout ça, ça a aucune âme. Pourquoi ça a aucune âme? C'est pas la faute des gens qui assemblent les ingrédients. C'est que simplement, quand on les embauche, On les met dans une cuisine, on leur montre une feuille de papier qui est posée sur le carrelage du mur, et on leur dit, voilà, la salade niçoise, tu mets 10 grammes de haricots, 5 grammes de thon, tu mets une cuillère à soupe d'huile d'olive, et puis tu mets ça dans un petit saladier en plastique ou en balsa, ou ce que vous voulez, et tu sers ça au client. Et le client, évidemment, il a l'impression qu'il va manger quelque chose de healthy, comme on dit aujourd'hui, mais ça n'a aucune
bon
âme.
Bon pour la santé.
Ça n'a absolument aucune âme.
C'est Alain Chapelle qu'il disait, il en a écrit un livre,
oui.
La cuisine c'est bien plus que des recettes,
oui.
Alors là on est en 1980, Alain Chapelle c'est un grand chef, un grand cuisinier, meilleur ouvrier de France, triplement étoilé, il a pris la succession de ses parents dans un restaurant, une auberge à Mionnet dans l'Ain, au nord de Lyon. Donc son livre vient de sortir et il explique son titre à la télévision à Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe.
Pourquoi la cuisine c'est beaucoup plus que des recettes? Parce que je vais dire les choses très vertement, mais 100 grammes plus 2 grammes dans un four à thermostat 8 et cuisson 20 minutes, ça ne veut rien dire. Il faut faire passer dans la recette, c'est déjà de l'émotion du choix du produit, la foi un petit peu que l'on va avoir pour régaler les amis, et toutes ces choses-là, on les a en soi et on veut les exprimer. Et c'est ça, là, ça a tout autant d'importance que la recette de cuisine.
Oui, mais il y a aussi la recherche du produit. Vous êtes célèbre pour vos produits, alors il paraît que vous connaissez le pêcheur qui vous pêche vos homards.
La dame ou les personnes, de toute façon, au bout d'un certain temps, parce que nous sommes encore dans une région privilégiée, un petit peu, qui a la chance d'être cernée par le Dauphiné, par les lacs de Savoie pour les poissons d'eau douce, par la Bresse, par les monts du Lyonnais, par la vallée du Rhône, etc. Le marché de Lyon est un marché de 25 départements, c'est énorme. On n'a plus de contact très très sérieux avec les gens. Donc je suis allé un petit peu à la recherche de tas de personnes avec lesquelles j'ai fait ami, et je crois que tous les cuisiniers actuellement retournent vraiment aux sources comme ça.
Alors dans vos émotions, vous parlez comme ça des fromages blancs de Madame Bailly. Madame Bailly, pour moi, je crois que c'était des chaussures, mais pour vous, ce sont des fromages blancs. Alors pourquoi? C'est l'émotion de l'enfance.
Si le livre a été fait, c'est parce que c'est un peu l'imaginaire. À 50 mètres du restaurant, nous y allons toujours chercher le lait actuellement, il y a Madame Bailly. Cette Madame Bailly, c'était la fermière. Quand j'étais gamin, j'avais gardé les vaches avec son mari qui est décédé, etc., qui était un homme fabuleux. Et puis, un jour, Madame Bailly, très malade, avec une arthrose, n'a plus pu faire de fromage blanc. Et moi, j'avais ce souvenir de laitages spéciaux, comme j'ai des souvenirs, comme vous avez des souvenirs d'odeurs de pommes, de je ne sais pas quoi. Et puis, eh bien oui, ça a été une vraie quête pour essayer de trouver le fromage blanc qui vous fasse autant plaisir que le fromage blanc que vous avez goûté dans l'enfance. Et je crois que c'est ça, et c'est ça le réel plaisir de la cuisine.
Et c'est pour ça que la cuisine, c'est beaucoup plus que les recettes.
C'est pour ça que la cuisine, c'est beaucoup plus que les recettes.
Les fèves aussi.
Oui, il parle très bien des fèves.
Les fèves, c'est le souvenir du... Mon oncle va être content, c'est le souvenir à 1200 mètres d'altitude du village natal de mon père. Parce que ce sont des pays très pauvres. Où il n'y a pas d'engrais, où il n'y a pratiquement pas de fumier, où les terres sont aussi pauvres que celles de l'île de Sein, où on peut y manger des pommes de terre fabuleuses.
Voilà.
Et les fèves du mois d'août qui n'ont pas été arrosées, etc., etc. Eh bien, c'est le souvenir,
le carburant un petit peu de l'âme et de l'émotion qu'on peut trouver dans les assiettes. Mais l'émotion, c'est un peu suranné comme terme. Moi, ce que j'ai remarqué dans votre livre, Jackie Durand, c'est que vous remerciez à la fin du livre, vous remerciez toutes les femmes et les hommes, ouvriers, la transmission en cuisine et ailleurs, qui m'ont nourri dans mes reportages. Est-ce que vous pourriez me dire qui sont ces ouvriers de la transmission? Ceux qui vous ont marqué, ceux qui vous ont justement conduit à décrire davantage dans votre livre?
Ce qui m'a toujours ému, c'est aller à la rencontre d'un maraîcher, d'une maraîchère, d'une fromagère, d'un éleveur. Vous l'appelez, vous lui dites... ben voilà, je voudrais bien vous rencontrer, puis vous regarder travailler. Et là, vous avez un blanc au bout de la ligne, et vous entendez, mais pourquoi moi? Eh ben, parce que vous, quoi. On a envie de pousser la porte, d'utiliser ces deux outils fondamentaux du journalisme qui restent les oreilles et les yeux, pour vous regarder travailler, pour vous écouter. Ah oui, mais j'ai pas les mots. Pourquoi vous avez pas les mots? Oh, vous savez, moi, j'ai pas été à l'école, hein. C'est pour ça que je suis devenu cuisinier à 14 ans. On m'a dit, c'est cuisine ou plomberie. Ben, vous leur dites, les mots, c'est les vôtres qu'on veut entendre. C'est pas un livre standard ou un dossier de presse. Alors déjà, ça les rassure un peu, là. Ils se disent, ah oui, bon, pourquoi pas. Mais il y a quand même toujours une petite dose de méfiance. Et puis quand ils vous voient arriver et que vous leur dites, ou plutôt c'est eux qui disent, mais on en a pour combien de temps? Le temps que vous voulez, si vous voulez toute la journée, et qu'ils se disent, ah... C'est quoi ce dinosaure qui travaille à l'ancienne? Ça marche, parce qu'on va passer du temps, on va manger ensemble, on va les regarder au cul des vaches, ou en train de faire cailler le lait pour faire un fromage, ou en train de d'éplucher un onglet de bœuf, ou je sais quoi encore, ou on va aller dans le jardin regarder les navets ou les premiers radis. Et là, ça fonctionne avec cette idée toujours que quelle que soit l'activité autour du boire et du manger, quand vous vous intéressez à quelqu'un, producteur, cuisinier, vous allez tirer un fil qui va permettre de raconter beaucoup plus que les recettes, comme dit Chapelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez ouvrir une porte sur des vignes où les gens vont raconter beaucoup plus que le simple fait de vous raconter leur carte ou leur menu.
Dans votre carrière, d'ailleurs, je crois que vous vous êtes occupé de faits divers au tout début de votre carrière, et pour le coup, la table. Vous avez pris conscience aussi que la cuisine, c'était ça aussi. Elle se disait autour de la marmite.
Oui, et vous savez, quand on y fait diversier, ce qui est sans doute pour moi l'une des branches les plus dures du journalisme, parce que débarquer chez les gens après un crime ou un homicide, c'est vraiment pas facile. Et que effectivement, ils vous reçoivent souvent dans la cuisine. Et souvent, ça s'étire, les questions sont pas faciles, ils arrivent pas à répondre ou ils ont pas envie. Puis à un moment, ils regardent l'horloge, ils disent « mais vous allez manger avec nous ». Et très souvent, ce « vous allez manger avec nous », on n'a rien fait de spécial, on finit les restes, ou on a juste ça, je vais sortir quelque chose du congèle. Et ben, une fois qu'on est à table, on se dit déjà que quelque chose va se passer. Et effectivement, très souvent, quelque chose se passe dans cette pièce qui est un lieu fabuleux, la cuisine. La cuisine, c'est sans doute la pièce où se dit le plus l'intime.
Sans en avoir l'air.
Sans en avoir l'air, mais aussi ces conversations tardives du soir dans la cuisine, où on se raconte des choses, où on lâche prise. J'ai plus souvent vu des gens lâcher prise dans la cuisine que sur leur canapé, quoi.
Il y a juste un mot, évidemment, on a parlé de la transmission orale, on va en parler encore, parce que du côté de l'hémisphère dans lequel on se trouve à Paris, on a une habitude d'écrit. Dans l'autre hémisphère, on n'a pas du tout une habitude d'écrit. Ces recettes-là et cette façon de cuisiner et de faire, elles se transmettent tout petit avec une boîte de conserve, on imite un feu et on imite maman qui est en train de cuisiner un bon thieboudienne. Donc on a vraiment un rapport à la recette qui est complètement différent. Dans votre livre, Henri est complètement décontenancé quand sa femme, la maman de Julien, propose un cahier de recettes. Il lui dit « mais je comprends pas, tu vas noter mes recettes, tu vas écrire comme je parle », et il comprend pas. Il dit « mais un cahier de recettes, pourquoi pas une étoile Michelin pendant que tu y es ?» Et surtout, il reproche à cette femme de le contraindre à aller vers un ailleurs qui n'est pas le sien. Ça, c'est quelque chose de récurrent dans la profession de cuisinier parmi tous ceux que vous avez rencontrés. Changer de milieu social, cette ascension ou non d'ailleurs.
Il y a des cuisiniers qui vous disent que quand on leur dit d'aller en salle, faire le retour de la salle à manger, pour certains c'est évident, d'aller dans la salle justement rencontrer leurs clients et recevoir souvent des compliments et échanger. Il y en a d'autres qui sont complètement paniqués parce que justement ils ont l'impression que le seul endroit où ils sont vraiment à l'aise et eux-mêmes, c'est dans leur cuisine. Et Henri, son problème c'est ça, c'est qu'en fait au fond cet homme il est paniqué. Il est paniqué parce qu'il a arrêté l'école... entre 9 et 12 ans, il s'est retrouvé d'abord dans un fournil de boulangerie, on lui a demandé de couper du petit bois pour alimenter le four, et après il s'est retrouvé les bras dans le pétrin à tourner de la pâte. Mais il est surtout paniqué, c'est pas parce qu'il veut pas, mais c'est parce qu'il se dit « j'y arriverai jamais ». Il aurait l'impression d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine, et ça le panique, cette idée de l'écrit. Et puis je pense qu'on va pas dévoiler le livre, mais ça le renvoie aussi à une forme de complexe par rapport à son épouse qui, elle, est enseignante. Et oui, je pense que c'est extrêmement dur pour lui. When she walked on down the street. Seems like a child staring at her feet.
Lady Day Lourdes sur RFI, vous écoutez le Goût du Monde en cuisine avec Jackie Durand qui chaque semaine sur France Culture et dans le journal Libération nous conte l'histoire qui se cache derrière les recettes, près des fourneaux, l'histoire des hommes et des femmes qui font la cuisine. Alors on le disait, cette cuisine elle s'écrit, elle se raconte, elle s'observe surtout. Vous cuisinez, Jackie Durand ?
Oui.
Pose-t-elle comme question innocemment ?
Oui.
Et vous cuisinez depuis longtemps ?
Plus lointain souvenir de gestes en cuisine, c'est j'ai 8 ans, oui. Ma mère est couturière, elle travaille à la maison, très souvent elle a des coups de bourre et elle a pas le temps de trop s'occuper de la cuisine. Et un jour elle me dit, tu vas surveiller la cuisson des pommes de terre dans la poêle, alors tu vas prendre une cuillère en bois et effectivement tu vas remuer les pommes de terre. C'est parti de là et j'ai appris, j'allais dire, une forme de grammaire de la cuisine. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture et faire la cuisine, c'est quelque chose d'extrêmement voisin. Il y a des pratiques extrêmement communes, notamment dans l'apprentissage, à savoir l'écriture. Vous êtes au cours préparatoire, vous commencez à lire et à écrire des lettres, puis des syllabes, puis des mots. Et puis un jour, on vous dit ça, c'est un verbe, et puis ça, c'est un sujet, ça, c'est un complément. La cuisine, c'est pareil. On vous dit ça, c'est une pomme de terre, ça, c'est de l'huile, ça, c'est du sel. Et on vous apprend une syntaxe. C'est-à-dire qu'on vous apprend la syntaxe en cuisine, c'est les gestes fondamentaux, c'est faire bouillir, faire griller, braiser, rôtir, tous ces gestes de syntaxe culinaire qui vont vous permettre d'assembler comme ça des ingrédients et de faire votre propre langue. Et moi, ma première rédaction en cuisine, c'est, je m'en souviens très bien, c'est, je crois que j'ai 10 ans. Ma mère travaille le soir du Nouvel An parce qu'elle doit finir une robe de mariée. Ça, je m'en souviens très bien. Et elle me dit, écoute, si tu veux, essaye de faire quelque chose. Et tu vas chez l'épicier, tu achètes, je te donne de l'argent, tu achètes ce qu'il faut, puis tu cuisines pour nous ce soir. Et alors, je regarde, ma mère était abonnée à Modes et Travaux. Et je vois une recette dans une pile de Modes et Travaux, une recette de citron farci avec du thon. Donc je vais acheter des citrons et du thon en boîte et je les farcis et je me souviens que je remets le petit couvercle du citron sur le citron et je plante dans le couvercle une petite branche de thym. C'était absolument dégueulasse parce que en fait j'avais mis beaucoup de jus de citron et de thon, j'avais pris du thon naturel, j'aurais dû prendre du thon à l'huile pour que l'acidité soit un peu calmée par l'huile, mais non, j'avais mis que du jus de citron et que du thon au naturel avec un peu de sel et de poivre. Donc, c'était viril pour un soir de Nouvel An.
Mais ça a été adoubé, j'imagine.
Je pense que ma mère m'a dit, t'aurais dû mettre un peu d'huile. C'est bon, mais t'aurais dû mettre un peu d'huile.
Il y a des mots comme ça qui me régalent l'oreille. Singer une viande quand on la saupoudre de farine. Cardinaliser les crustacés en les faisant revenir à feu vif pour leur faire prendre une couleur rouge-orangée. Vanner une sauce en la remuant avec une spatule pour empêcher la formation d'une pellicule. Je me délecte aussi quand tu méprises les robots ménagers en les traitant de tarares et que tu réclames la clé du champ de tir pour dire que tu cherches quelque chose. Quand nous sommes tous au fourneau, tu nous répètes souvent. Ça s'attrape pas au moins. Dans ton glossaire, s'attraper veut dire un tas de choses. Attacher dans le fond de la casserole, trop cuire dans la poêle, bouillir trop vite, faire des grumeaux dans la pâte à crêpes. S'attraper, pour moi, est le plus précieux des héritages.
Et pour écrire les mots de la cuisine, je crois qu'il faut un peu cuisiner, c'est pour ça que je vous posais cette question. Ces mots, ils ont des sons aussi, une ambiance particulière. Comment est-ce que vous avez fait pour retranscrire en mots ces ambiances, ces fourmillements, ces casseroles qui ne tapent pas, mais qui doivent se poser sur les fourneaux ?
Ne tape pas okay. Une casserole, ça c'est interdit. Je me suis déjà fié un petit peu à ma mémoire des reportages en cuisine et puis aussi à ma propre pratique de la cuisine et surtout ce qui s'est passé, c'est que fur et à mesure que j'écrivais ce livre et que je racontais une ambiance ou un plat, Je le faisais dans ma tête, ce plat. C'est-à-dire que j'écrivais en même temps en me disant, là, tu mets 2 cuillères à soupe d'huile dans la poêle, là, elle va commencer à chanter, l'huile, là, c'est bon, tu peux mettre les oignons que tu as coupés en rondelles. Je faisais les gestes, je mimais dans ma tête tous les gestes et toutes les recettes. Et quand j'avais un doute, j'allais vérifier, effectivement, si j'étais en train de me tromper, s'il fallait mettre la farine à tel moment ou à tel moment. Et j'ai vraiment voulu que ce livre respecte, j'ai essayé en tout cas, à la lettre, tous les gestes d'élaboration des recettes.
En tout cas, c'est un livre qui donne faim. Il n'y a pas de recette dans ce livre, pas de recette précise, au sens où on pourrait l'entendre, mais c'est un livre où on voyage au travers des recettes, avec les mots bien sûr, mais aussi avec les outils de la cuisine. Vous faites, il y a certains personnages, la cuisinière au charbon, le saloir, ce sont des outils et des personnages, la place des outils dans la cuisine.
C'est énorme. Mais comme dans tous les métiers, effectivement, où s'incarne ce que l'intelligence de la main. À savoir que si vous allez en cuisine et que vous regardez le couteau d'un cuisinier, vous verrez très bien que le manche s'est adapté à la forme de ses doigts. Un bon ouvrier, qu'il soit cuisinier ou un autre métier, c'est déjà quelqu'un qui sait prendre soin de ses outils et même les fabriquer quand il estime que ce qui existe sur le marché ne correspond pas. Je vais juste vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, je suis allé dans une sorisserie à Boulogne-sur-Mer, un endroit où on fume le hareng et où donc on le découpe en filets. Je suis allé voir les fileteuses, c'est-à-dire des femmes qui effectivement prenaient le hareng en entier et taillaient les filets du poisson. Et en fait, elles n'étaient pas contentes. Elles n'étaient pas contentes parce que depuis quelque temps, on les obligeait à utiliser des couteaux avec des manches en plastique au nom de l'hygiène, parce que les couteaux en bois, on estimait que des micro-organismes pouvaient se déposer dans les stries en bois. Et elles me racontaient effectivement que ces manches en plastique et ces couteaux nouveaux les désarçonner parce qu'elles n'avaient pas du tout le sentiment d'avoir la même qualité de geste avec cet outil. L'outil, c'est le prolongement de la main, c'est rien d'autre. C'est essentiel et puis c'est ce qui fait aussi la sensibilité.
Dans un restaurant, le soir n'est jamais immobile. On s'active jusqu'à point d'heure. Il y a toujours un bout de terrine ou de chèvre pour discuter, passer minuit. Je hume l'odeur lactique du chalet. Été comme hiver, j'ai les pieds gelés sur le sol de granit. Pendant que tu fais tes achats, je me penche sur la cuve en cuivre où l'on fabrique les fromages. Il y a aussi ce drôle d'outil, mi-râteau, mi-balai, dont les fils d'acier servent à trancher le lait coagulé pour le transformer en morceaux de la taille d'un grain de maïs qui deviendront des meules, des tomes que je vais flairer dans la cave.
Votre outil, est-ce qu'il y a par exemple, il y a une description d'un hachoir dans votre livre, le cahier de recettes. On a l'impression que c'est une voiture de luxe. Est-ce qu'il y a un outil comme ça que vous auriez aimé avoir?
J'ai un très vieux hachoir en fonte d'aluminium de marque Sandvik, marque du nord de l'Europe, je ne sais plus si c'est suédois, effectivement, qui est très très ancien, avec lequel j'ai fait des pâtés, des terrines et différentes choses. Mais globalement, j'ai toujours pensé que la cuisine nécessitait très peu d'outils. Qu'en gros, à partir du moment où on a 3 couteaux, une planche à découper, on peut faire énormément de choses.
D'ailleurs, il y a un personnage dans votre livre qui s'appelle Gabi, qui est truculent, qui cuisine lui aussi, mais dans un entre-genre. D'abord, il sort de sa musette une poignée de pommes de terre. Il les place sur la braise. Il me demande d'aller couper 2 branches bien droites dont je taille l'extrémité en pointe. Il embroche du lard, des cuisses de lapin, les ailes de poulet et du poisson, des bouffis, ces harengs sorts fumés qui sont pour moi des poissons d'or et d'argent. J'aime humer la fumée qui se dégage du feu sous ces fuseaux marins. Je me régale de leurs filets gras et chauds qui beurrent la chair des pommes de terre, faisant une purée à laquelle on ajoute un peu d'oignon sauvage. Le bouffi donne soif, Gabi noie de vin. Du vin clairet dans l'eau de mon verre. J'ai l'impression d'être son frère d'armes. On aurait pu combattre ensemble dans les Vosges et je ne poursuivrai pas la recette.
Alors Gabi, en fait, c'est...
Mais est-ce que c'est de la cuisine? C'est de la cuisine comme un partage, mais ça, c'est pas le béaba ou l'initial de la cuisine?
J'allais dire que ce que j'ai voulu montrer dans la cuisine de Gabi, c'est la cuisine champêtre, c'est la petite fugue, c'est... j'ai un couteau, j'ai un briquet... Je suis en forêt, je vais faire un feu et je vais griller 3 pommes de terre sous la cendre et c'est le bonheur. Et Gabi, il incarne cette liberté-là. C'est-à-dire que dans son histoire, dans son parcours de cet homme dont on peut dire qu'il a une vie d'une certaine façon extrêmement héroïque, il a toujours revendiqué en fait la liberté, y compris celle de se dire j'ai faim, eh bien je me pose au milieu de la forêt et je fais un feu et on mange et c'est maintenant.
C'est pour ça que j'aime beaucoup Gaby. En fait, j'entends vraiment ça par, il y a vraiment tout un panel de cuisine. Cuisine, ça veut dire juste manger et donc préparer éventuellement à manger et aussi partager. Vous partagez beaucoup avec un cuisinier dont vous avez observé les gestes, le savoir-faire pour les décrire et les raconter, donner les mots qui s'évadent parfois, qu'on ne trouve pas pour dire parmi les chefs à qui vous avez donné la voix dans un livre, Entre Paris et Tunis. Il y a le chef du restaurant à mi-chemin, Nordine Labiade. Bonjour Nordine Labiade.
Bonjour Clémence, bonjour Jackie.
Je voudrais savoir Nordine, faire à manger pour les autres, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Moi, j'ai l'impression que je suis un marin d'un navire où il y a des mondes, tout le monde sur les bateaux sont différents, on a un cap à tenir, c'est moi qui j'ai décidé d'aller vers ce cap, avec tout le monde et avec la différence. Il faut que tout le monde soit utile et tout le monde est important. Faire à manger aux autres, c'est avec les autres. Je ne vais pas manger pour moi. Je me sens utile à cette poste avec les gens autour de moi. J'ai fait à manger parce que j'ai envie d'être tout le monde. Et le fait que je suis cuisinier, j'ai l'impression de faire tous les métiers des gens autour de moi.
Il faut m'expliquer ça.
Moi, j'ai eu des mal. J'avais pas envie, j'avais pas de l'aide ou la force de choisir un boulot ou un travail. Et donc, je me suis trouvé à faire à manger. Et du coup, ça m'a épargné de choisir un travail. Pour moi, c'est pas un travail, c'est utile. Et j'ai l'impression de faire tout le travail de tous mes clients. L'avocat, les coiffeurs, les médecins, les chauffeurs. J'ai l'impression d'être eux, d'être un collègue à eux qui fait le repas ce jour-là pour eux. Et ça continue depuis 20 ans. On est dans le donnant. Lui, il a fait son boulot, son travail de l'autre côté. Moi, je le fais à manger. J'ai l'impression que j'étais complémentaire à lui et lui, il est complémentaire à moi. J'ai pas l'impression que faire la cuisine, c'est un travail. Je joue, je m'amuse, j'ai vie, en fait.
La générosité que tu mets dans l'assiette, comment est-ce que tu penses qu'on la ressent ?
La générosité, c'est le fruit de comment je vois la cuisine, comment je vois l'acte de manger. Le fait de faire à manger à quelqu'un, c'est un acte d'amour capital. Les personnes qui mangent, qu'est-ce qu'on les prépare? C'est un acte de confiance aussi. C'est pas que se nourrir. Donc, quand c'est généreux, moi, j'adore, j'aime chaque plat et chaque personne qui mange mon plat. Et d'un client à l'autre, d'un assiette à l'autre, d'un plat à l'autre, c'est différent parce qu'on ne peut pas aimer tous les gens pareil. C'est simplement ça. Généreux, c'est pas parce qu'il y a beaucoup. Généreux dans le geste. Moi, quelqu'un qui manie un poisson un peu brusque, ça, je suis pas content. Et les produits, on les manie avec douceur et gentillesse parce que ça nous fait vivre. Et transmettre un plat, il faut que ce soit du tout cœur. C'est pas un travail. Les personnes qui mangent avec gourmandise et avec joie, c'est un acte de générosité. On transmet sans vouloir transmettre. Moi, il y a des gens très importants dans ma vie. J'ai travaillé avec eux. Ils ne m'ont pas formé. Ils n'ont pas voulu me former. Mais ils m'ont transmis des choses très importantes qui maintenant, grâce à eux, que je suis cuisinier. De faire bien, de donner envie à l'autre, accepter l'autre, on transmet mieux. Et dans le livre de Jackie, je vois ces garçons qui cherchent ce cahier de recettes partout que le père n'a pas transmis. Je trouve que c'était positif de ne pas transmettre ces cahiers, parce que ça peut être un poids, une transmission, ça peut être lourd. Le père a laissé le choix à l'enfant de chercher et de créer cette curiosité et d'aller épuiser et chercher tous les jours cette transmission. Donc la transmission est faite, même quand on n'a pas trouvé le cahier.
C'est un peu le grand partage et la création, la cuisine, si on écoute Nordine Labiade.
Oui, c'est surtout donner. Et c'est peut-être la plus belle forme de transmission à travers les papilles. Il y a quelque chose de... La cuisine, ça peut pas mentir. Moi, ça m'est arrivé d'être invité comme ça à des repas où techniquement tout est parfait. Mais c'est pas bon. C'est pas bon au sens de l'humain, du partage. C'est juste des recettes exécutées d'une façon technique irréprochable. Mais ça n'a pas d'âme et surtout ça ne dit rien. C'est tout ce que je déteste, à savoir c'est l'espèce de représentation, le paraître de la cuisine. Et je préfère 100 fois un repas un peu bancal, un peu trop cuit, un peu trop salé, un peu trop épicé, qu'une cuisine parfaite mais lisse comme une porte de frigo.
Alors que j'étais à l'armée, on était en manœuvre dans le Louisiane, une nuit au mois de mai. Le capitaine nous montre un fleuve et c'est comme ça que tout a commencé. On avait la flotte jusqu'aux genoux et le vieux con vit avancer. Sergent dit où mon capitaine, êtes-vous sûr que c'est le chemin? Sergent, j'ai traversé souvent et je connais bien le terrain. Allons soldats, un peu de courage, on n'est pas là pour s'amuser. Il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux con dit avancer. Sergent dit on est trop chargé, on ne pourra pas nager. Sergent, ne sois pas si nerveux, il faut un peu de volonté. Suivez-moi, je marcherai devant, je n'aime pas les dégonfler. En avait la flotte jusqu'au cou et le vieux con il avançait. Dans la nuit soudain, un cri jaillit suivi d'un sinistre glou-glou. Et la casquette du capitaine flottait à côté de nous. Le sergent cria, retournez-vous, c'est moi qui commande à présent. On s'en est sorti juste à temps, le capitaine est mort maintenant. Le lendemain, on a trouvé son corps enfoncé dans les sables mouvants. Il s'était trompé de 500 mètres sur le chemin qui mène au camp. Un affluent se jetait dans le fleuve.
Jusqu'à la ceinture de Graham Allwright sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde. Cette chanson, Henri, le cuisinier, patron du relais Fleury, hyper charismatique, ouvrier de la Bactance, la chante à tue-tête dans sa cuisine. Votre livre, c'est aussi, Jackie Durand, l'expression d'une manière de cuisinier. Je dirais peut-être qu'un manifeste ou alors une tribune par un passage sur le fromage de tête. Le fromage de tête est plus qu'une recette pour toi, toi étant le père. Le fromage de tête est plus qu'une recette pour toi, c'est ta façon d'être en cuisine. Partir de rien, un quignon rassis, un reste de viande, tu cuisines des plats qui sembleraient immangeables aujourd'hui, comme la tétine de vache panée. Quand on débarque à la triperie du marché couvert, la tête de porc est une chimère effrayante pour moi. Lulu me fait peur en disant que les cochons peuvent manger les enfants, que les bandits les utilisent pour faire disparaître leurs ennemis. Le tripier rigole et te fait un clin d'œil, tu m'achètes le magasin aujourd'hui. C'est une façon de cuisiner, à savoir on respecte le produit, on utilise tout le produit, et également on voit cette façon et ce bon sens du cuisinier.
Alors c'est vrai que le mot respect du produit est un peu à toutes les sauces aujourd'hui, c'est une façon de s'acheter bonne conscience quand on parle de respect du produit.
Et ça c'est dans les sociétés dans lesquelles on a les sous pour se poser cette question de conscience. Il y a de nombreuses sociétés dans lesquelles on n'a pas les sous pour se poser ce problème et donc on va utiliser le produit de A à Z.
Alors c'est très juste ce que vous dites parce que je dirais que c'est la question d'embrasser complètement le produit, de le prendre à bras le corps et de se dire voilà bon Dieu j'achète un cochon et ben je vais le cuisiner du pied jusqu'au groin et ça me semblait essentiel de poser ce postulat qui me semble absolument pas suranné parce que on n'a jamais autant parlé aujourd'hui de lutte contre le gaspillage alimentaire, d'arrêter de jeter des kilos et des kilos de marchandises à la poubelle alors qu'on peut les cuisiner et effectivement un cuisinier, et je trouve qu'aujourd'hui il y a quelque chose d'assez encourageant dans les cuisiniers que je rencontre, effectivement ils utilisent les ingrédients de A à Z. Et effectivement, pour moi, la tête de cochon est emblématique à la fois de ce souci de tout utiliser et de dire aussi, mais les choses les plus humbles, les plus quelquefois méprisées ou méprisables peuvent faire des goûts magnifiques, des textures magnifiques. ça me semble pas du tout dépassé ni suranné, ça me semble extrêmement actuel.
Bah, la queue de bœuf, on a un souvenir ému d'Alexandre Belaola nous parlant de la queue de bœuf au gombo dans Le Goût du Monde, parce que justement ça fait partie de ces morceaux-là qu'on va peut-être mettre de côté alors qu'en fait on peut les cuisiner. Vous auriez aimé être cuisinier vous-même, Jackie Durand ?
Oui.
Donc ça c'est l'expression. Est-ce que vous avez rencontré, parce que ça fait 20 ans, 25 ans maintenant que vous parlez de cuisine ?
J'écris sur la cuisine, on va dire, depuis maintenant, ça fait une quinzaine d'années. Mais en gros, quand j'ai commencé, je le faisais à côté d'autres activités au sein du journal Libération, dans lequel je travaille depuis 25 ans maintenant. Maintenant, je m'y consacre entièrement. Mais en même temps, j'ai peut-être trop de respect pour ce métier de cuisinier. Et en même temps, je mesure à quel point il peut être... une implication telle que je ne sais pas si j'aurais été capable d'être en cuisine de 7h30 du matin à 23h, 5 voire 6 jours sur 7, avec des tâches extrêmement contraignantes, lourdes. Je crois aussi que quand on aime écrire sur un sujet, il faut savoir garder une sorte de distance aussi. C'est-à-dire que on ne demandera jamais à un chroniqueur judiciaire d'être juge ou à quelqu'un qui suit les flics de devenir policier. Il y a que Monsieur Benalla qui pensait qu'en étant conseiller à l'Élysée, il pouvait se permettre d'aller frapper les gens sur le terrain. L'implication, la distance, c'est aussi savoir rester humble, regarder les autres, pour mesurer d'autant plus leur implication et leur talent.
Justement, le cuisinier est sorti de sa cuisine avec Paul Bocuse. Maintenant, il est sous le feu des projecteurs. Avec le recul dont vous parliez, quelle est la place du cuisinier aujourd'hui, selon vous, dans la société ?
La place, elle est là où le cuisinier veut être. Vous avez des gens qui sont extrêmement visibles, extrêmement présents sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et puis vous avez des gens qui préfèrent eux rester dans leur cuisine et en gros pour leur scène pour eux c'est leur fourneau. Leur visibilité c'est de savoir que quelqu'un va être heureux de manger chez eux. Cela dit, il faut rendre à Bocuse ce qui est à Bocuse, c'est-à-dire qu'effectivement quand il a décidé de montrer, de rendre visible le cuisinier, c'était une époque effectivement où les cuisiniers étaient derrière leur fourneau. Quand il cuisinait pas, il raconte lui-même, Bocuse raconte quand il est monté à Paris pour travailler. En gros, les cuisiniers, ils étaient au fourneau et le reste du temps, ils jouaient aux cartes dans des bistrots derrière les restaurants et voilà, c'était tout. Et Bocuse effectivement a permis de montrer toute la beauté et la noblesse de ce métier, avec tout le respect. Et l'admiration que j'ai pour ce chef, je pense qu'il c'était pas le plus inventif ou c'était pas le plus grand créateur des cuisiniers, mais il a tellement, je veux dire, permis de faire parler de ce métier que c'est exceptionnel ce qu'il a fait.
Amar m'avait passé un tablier de commis comme si j'étais déjà embauché. Il m'avait demandé « Tu connais la mlouria ?» Évidemment, je ne connaissais pas. C'est un plat de fête, comme le premier jour du printemps. Il m'avait montré une poudre d'un vert tendre. C'est la poudre de corette, une plante qui pousse au pied des palmiers. Elle va faire la sauce. Il avait découpé un gros morceau de paleron, en caressant d'abord le long fuseau grenat. C'est beau, hein ? Un homme qui aimait le paleron, comme me l'avait appris mon père, ne pouvait pas être mauvais. Il avait enduit la viande d'ail et d'une belle poudre terre de sienne. C'est le psar. Un mélange d'épices que fabrique ma mère. Elle y met de la cannelle, du carvi, du fenouil. Je pousse la porte d'un monde qui me fascine, celui des épices. Chez mon père, je ne connaissais que le poivre, le quatre épices et la noix de muscade. Amar me fait découvrir la cardamome dans son riz au lait, le curcuma dans ses boulettes de veau, la cannelle dans son sirop d'agrumes, la badiane avec le rognon de veau. Il a absolument voulu que je goûte sa chorba à la sèche avant de me raconter ses premiers pas en cuisine. Ça va être du beurre en bouche, mais il faut encore un peu plus d'ail et de céleri. Avec Amar, j'apprends que la cuisine peut être à la croisée de tous les chemins. Il me fait cuisiner la saucisse de morteau en cassoulet avec les épices de sa mère, m'apprend à préparer la graine de couscous pour accompagner le bœuf bourguignon, me fait découvrir sa recette de pastilla de canard à l'orange.
Si je vous demandais, Jackie Durand, c'est une tradition en fait dans Le Goût du Monde, je ne sais pas si je vais poser la question, de me parler d'un ingrédient et d'un ustensile.
Ça peut être un plat ?
Ça peut être un plat. Généralement, un ingrédient, c'est ce qui permet de donner quelque chose au
là,
plat.
Là, je ferme les yeux. On est en Irak et on est à Fallujah. Et moi, de Fallujah, j'ai le souvenir, il y a très longtemps, des brochettes d'abats de mouton. dont les Irakiens eux-mêmes disaient que c'était les meilleures brochettes d'Irak. Et le goût de ces bouts minuscules de mouton, il y avait à la fois de l'abat, un peu de graisse, un peu de muscle. Et tout ça était posé sur un lit d'un persil très odorant, qui était un peu entre le persil et la coriandre, avec du roubouze, avec des galettes de pain et un peu de sumac. J'ai encore cette émotion-là, ce goût-là dans ces gargotes où on pouvait à la fois manger des brochettes et changer le pneu de ses voitures et regarder l'Euphrate. Et c'est, pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs culinaires et gustatifs de ma vie.
J'ai pas demandé. Merci. Pour l'ustensile, mais bon, l'ustensile, on va dire que c'est quoi? Un couteau, peut-être? Un petit couteau pour couper le pain?
Non,
une cuillère pour manger?
Alors, le plus bel ustensile est celui que je n'utilise plus, tellement j'ai peur de l'abîmer. C'est un plat en terre cuite vernissée, dans lequel je faisais autrefois des fards bretons et des clafoutis. C'est le plat que ma grand-mère avait acheté en 1919, quand elle s'est mariée avec mon grand-père.
Le goût du monde se referme. Merci beaucoup, Jackie Durand, pour ce partage. Le cahier de recettes est publié chez Stock et traduit dans plusieurs langues, 18 pays, c'est ça, je crois, 18 langues différentes.
Oui, apparemment, il vit sa vie maintenant.
Et maintenant, mais c'est une cuisine universelle, c'est ça qui est bien. On vous retrouve sur le web, dans Libération, à la radio le samedi matin. Je ne rangerai pas ce livre tant que je n'aurai pas le suivant, sachez-le. Cahier de recettes, je le garde sous mon coude. Racontez-nous, vous, ce que la cuisine vous apporte, comment vous la partagez, comment vous l'aimez, sur la page du goût du monde, sur les réseaux sociaux, comme il vous plaira. Merci beaucoup à Olivier Roux qui a réalisé, mis en onde cette émission. Vous pouvez la réécouter, la podcaster le jour comme la nuit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous sur un air de salade de fruits.
Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous...